Festival LV3. Ça se passe à Lavaltrie du 20 au 22 septembre, le vendredi 21 sur la scène extérieure. Le Festival LV3, ça se passe à Lavaltrie du 20 au 22 septembre, le vendredi 21 sur la scène extérieure, soirée hip-hop avec À la claire ensemble, Rhymes et Seba et Org. Le samedi 22, on change de vibe pour une soirée punk avec Planet Smashers, Mute, Muddy et un hommage aux Ramones. Le tout sera accompagné de deux spectacles d'humour avec Julien Tremblay le vendredi soir et Guillaume Wagner le lendemain dans un lieu complètement loufoque, soit un gym de CrossFit. Pour vous procurer des billets, c'est au www.lv3festival.com.
Hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Pool Hip-Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca.
Bonjour, bonjour, bienvenue à cette émission numéro 182 de Pop en Stock. Mon nom est Mégane Bédard et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à une nouvelle émission qui va porter sur un sujet qui est très d'actualité, si j'ose dire, parce qu'aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet qui est un peu sur tous nos réseaux sociaux, sur toutes les télévisions, pour ceux qui ont le câble, sur toutes les affiches dehors quand on sort du métro. Donc, on va parler des élections québécoises, oui, mais aussi des élections en général et de comment ça affecte notre vie au quotidien. Et aujourd'hui, en studio, pour en discuter, j'ai une très grande popeuse, donc Rachel Hippolyte.
Allô?
Qui est de retour.
Yay!
C'est le grand retour. Mais non, ça fait pas longtemps que t'es venue, mais sans moi.
Ça fait pas si longtemps que ça, mais...
mais pour moi, ça paraît comme une éternité.
Je pourrais essayer de te dire la dernière, parce que c'est écrit quelque part.
Dans ton cahier de notes.
Dans mon cahier de notes. En fait, le dernier épisode que je suis venue, c'est cet été, pour l'afrofuturisme.
Oui, c'est vrai, un excellent épisode, et afrofuturisme 1 et 2, avec donc Anne Sufried.
Qui... Absolument.
Donc, je vous... conseille l'écoute très chaudement.
Oui.
Aussi, un retourneux, Sylvain Trottier. Donc, salut Sylvain.
Salut, salut.
Donc, tu es venu la dernière fois pour l'émission qu'on avait faite sur l'hybridité ludique.
Exactement, je reviens d'entre les morts pour une émission complètement différente.
Yes, et pour montrer à quel point ton CV, qui était déjà très impressionnant... Moi, je le trouve impressionnant. Non. Donc, à la base, et tu vas nous jouer des nouvelles cartes, donc parler politique aujourd'hui.
Effectivement, et politique et jeu, pour moi, c'est très proche. Hein? On pourra en parler, si tu veux.
On en parlera, on y reviendra, oui. Aussi, en studio, donc, Rachel a décidé d'inviter, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui, donc Martin Patenaude-Monette.
Salut!
Bonjour! Donc, illustrateur,
BDiste, caricaturiste.
Et on m'a parlé d'un zine aussi que tu avais fait.
Donc... sur la politique canadienne.
Oui, en fait, j'en ai fait plusieurs. Un qui s'appelait « Je chie des feuilles d'érable ».
Exact.
Je me disais que c'est celle-là dont on voulait parler.
Exactement. Il est merveilleux.
J'ai aussi fait le livre beige de Claude Ryan. En fait, ceci n'est pas le
livre beige de Claude Ryan.
Donc, on pourra en reparler encore une fois. Et on a une invitée spéciale aujourd'hui, donc Lorraine Degas, bonjour.
Bonjour, invitée spéciale qui s'incruste en dernière minute.
Ben oui, c'est ça, parce que, non, que tu avais écrit à Jean-Michel pour dire que ça faisait longtemps que tu écoutais l'émission et tu étais de passage à Montréal et tu voulais venir assister à l'enregistrement d'un épisode. Malheureusement, c'est comme un sujet... je pense qu'on va être très québécois autour de la table, mais je pense que t'as comme vécu le choc électoral entre la France et le Québec.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Ouais, c'est ça. En voyant les affiches, je pense.
C'est ça. Je suis arrivée, taxi de l'aéroport, on voyait les affiches partout, et j'étais là, c'est vraiment des élections. C'est très différent, très différent. Et on a aussi les sourires crispés, mais en France, les codes sont différents, et du coup, je me demandais un petit peu ce qui se passait et ce que les uns et les autres représentaient. J'avoue que pour le moment, c'est encore un peu flou. Je compte sur vous pour m'éclairer de vos lumières et je suis très contente d'être ici.
On est très content d'être... Donc, je suis très contente de toutes vous avoir autour de la table aujourd'hui. Et on peut amorcer un peu le sujet en parlant justement des affiches parce que, Lorraine, avant d'entrer en onde, tu disais... On parlait du code de couleur, en fait, qui allait avec les allégeances de droite, de gauche et comment ça c'était très différent parce que, en fait, le rouge... Donc, associé justement au Parti communiste, c'est pour parler des partis de gauche, alors qu'ici, le rouge, on associe ça plus au fédéralisme, donc au parti plus de droite ou libéraux. Donc, il y avait vraiment comme un décalage là-dedans à ce niveau-là.
Non, mais c'est extrêmement perturbant d'imaginer le rouge pour des gens de plus conservateurs, plus... Moi, c'est le rouge du communisme, donc c'est extrêmement perturbant. Mais il y a quand même une grande majorité de bleu en France et je trouve que c'est plus coloré ici, même pour les vêtements.
Sur les photographies.
Oui, sur les photos. Vois,
Les gens portent des vêtements colorés.
Mais si je peux me permettre, le rouge, par contre, à l'époque, au 19e siècle, quand le Parti libéral a été fondé, c'était quand même un parti qui était plus à gauche, qui était plus pour les libertés individuelles, qui était les libéraux pourfendaient les religieux au Québec puis au Canada, et le bleu était le parti conservateur. Avec l'évolution des partis politiques puis les scissions qu'il y a eu, ça s'est un peu transformé avec le temps, les couleurs sont restées, mais...
avec le fameux truc de Duplessis, c'est le clergé qui incitait les gens à voter bleu, donc à voter pour le parti de Duplessis, pour les conservateurs, en disant ben oui, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, donc ne votez pas pour les rouges et donc pour l'enfer.
ce qui est à noter, on associe le bleu au côté nationaliste, tendance souverainiste, tout ça. Mais le bleu aussi provient du drapeau québécois. Puis le drapeau québécois, il a été mis en place par Duplessis.
Ah, absolument, en 1948. J'ai regardé la date. Parce qu'en tout cas.
Mais donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le bleu s'est fait réapproprier comme ça, mais il est passé dans le fond du conservateur au souverainiste. Et souverainiste en soi peut être autant un conservateur qu'un progressiste. Un souverainiste, l'axe souveraineté fédéraliste ne signifie pas forcément axe gauche droite. C'est complètement autre chose. En fait, même au sein du Parti québécois, à sa naissance même, il y avait des gens autant de gauche que de droite à l'intérieur parce qu'ils n'avaient qu'un projet et c'est l'article 1 du parti qui est de faire la souveraineté du Québec. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus brouillé, les cartes. Je pense qu'on peut s'entendre qu'il commence à y avoir un peu plus d'axes gauche-droite qui commencent à sortir dans le débat, mais l'axe fédéraliste, souverainiste ou nationaliste ou autonomiste, tout ça, si on veut, est quand même très existant et définit quand même notre situation politique aujourd'hui et donc, par le fait même, les couleurs des partis.
Ah oui, la question est même revenue au débat des chefs. Parce que je me souviens, j'ai juste un moment, parce que, en fait, j'ai été voir la table ronde à l'apparition du livre La Grande Déception, donc auquel tu as participé, Rachel.
Oui, effectivement, j'ai fait ça.
L'auteur du livre dont j'ai oublié le nom.
Francis Boucher.
Francis Boucher avait mentionné qu'on n'allait pas parler d'indépendance pendant la campagne électorale, mais c'est faux, parce que la question a été abordée au débat des chefs de jeudi dernier. Donc, on en a parlé, mais ce débat-là a aussi soulevé... En fait, moi, ce que j'en retiens, puis je suis pas experte comme vous sur la question, justement, électorale, mais moi, ce que j'ai retenu de ce débat-là, c'est les mèmes qui sont apparus.
Mais qui sont apparus très rapidement pendant la campagne. Très rapidement, en fait, dans l'instantanéité, là, je veux dire, il y a eu la fameuse déclaration de Madame Raymonde Chagnon qui a dit le « pas tellement ». Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre.
On lui a demandé si ça répondait à sa question, donc on invitait les gens à la télé à poser des questions. Exact. On lui a demandé si elle répondait à ses questions. Elle a juste répondu « pas tellement ».
coupé.
Et voilà, avec son, avec un visage très, très sceptique. Et ça a vraiment fait le tour des réseaux sociaux, repris à toutes les sauces avec le visage de la dame. Ben, tu sais, il faut imaginer une dame d'une soixantaine d'années, pas heureuse. Ça, c'était beau.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est oui, c'était drôle sur le moment. Moi, j'ai regardé le débat, j'étais avec des amis, puis on a rigolé sur le moment. Mais je crois que le pas tellement, s'il si est autant devenu un mot-clic et un mème, c'est que ça parle aux gens. On a vraiment, je crois, de façon générale, il y a énormément d'indécis à cette élection. On a l'impression que tout ce qui est proposé pour le moment, ça nous satisfait pas tellement. Du moins, c'est, je sais pas si c'est le cas pour beaucoup de monde, mais autour de la table, mais non,
ça nous satisfait. Le pas tellement il...
Non mais effectivement on est à quoi, 40-45% d'indécis encore, donc c'est à dire que les principaux partis n'ont pas encore su répondre vraiment à la, aux besoins ou du moins aux questionnements de l'électorat.
Oui, oui. Non mais tu sais, je parlais de la vitesse parce que c'est, non, c'est ça, c'est un des trucs qui paraît le plus dans, dans, dans une campagne électorale, dans, dans les dernières élections, puis dans cette élection-ci, tu sais, j'essayais pour les biens de la cause de remonter mes propres archives personnelles sur les faits absurdes de la campagne électorale. Pour faire un résumé pour les gens, ben les gens qui me connaissent pas, ben vous me connaissez là, les gens qui écoutent là, mais dans
il y a des gens qui te connaissent pas qui nous écoutent.
Ben c'est ça exactement. Fait pour les gens qui me connaissent pas, je tiens depuis plusieurs années une chronique de l'absurde. Donc depuis l'élection de 2012, en fait, c'était pour me distraire par rapport à la grève parce que la grève a été très éprouvante et bon, fallait bien se sortir de cette émotion-là. Donc, j'ai commencé à recueillir toutes les citations qui ont, et les citations, les trucs absurdes, les tweets absurdes et tout ça qui sont sortis pendant les campagnes électorales. Et plus ça va, plus on me transmet des images de mèmes. Donc, c'est comme si la construction de mèmes était plus absurde que la campagne elle-même, alors qu'au début, on transmettait pas tant d'images que ça, pas tant de détournements, de pancartes et tout. Puis on dirait que plus ça va, plus finalement ce que je reçois, oui, je reçois une partie de ce que le politicien X a dit est absurde, mais je reçois beaucoup de mèmes, de d'interprétation des gens pendant la campagne électorale, et même certaines des candidats qui récupèrent ça à leur propre avantage, ce qui est quand même trop.
Oh, mais c'est ça l'affaire, c'est que comme quand on fait des mimes, c'est vraiment je connais pas beaucoup de choses à la politique, mais je connais beaucoup de choses aux mimes.
Il faut ça, il faut ses spécialités, Mégane.
Non mais c'est
moi,
ça,
je te comprends.
Le fait de récupérer comme toutes ces, justement, ces parties là en termes, on les récupère en termes de stéréotypes et en termes de stéréotypes de l'électeur moyen qui vote pour ces parties là donc on fait tout le temps comme une espèce de nuage, c'est les starter packs là, on fait une espèce de nuage de stéréotypes de comme on disait tantôt, un homme grisonnant dans la cinquantaine avec deux VUS va peut-être pas nécessairement voter pour le Parti vert. Donc, il y a toujours un jeu là-dessus, puis c'est pour montrer à quel point les identités électorales se sont cristallisées, sont faciles à reconnaître, et on fait souvent des associations comme ça. Mais aussi, ça l'ouvre aussi des brèches de peut-être de, pas par l'absurde, mais juste par le détournement de ça, de faire comme, peut-être que c'est pas parce que, là, je pense à la page de mime, être un homme grisonnant de Québec, qui est comme, c'est sûr que c'est l'espèce d'apogée du baby boomer qui, comme toutes les pages de mime québécoises, ont donné leurs allégeances politiques et veulent voter pour Québec solidaire. Donc, il y a comme une espèce de transgression ici qui s'est glissée entre deux associations qui sont pas du tout associées habituellement. Donc, il y a moyen de détourner à partir de ça, je pense aussi, là.
Ben en fait, dans le fond, dans le cas des mimes, tu sais, tu parlais qu'on peut catégoriser les gens, mais tu sais, c'est un éclatement qui fait qu'on peut autant les catégoriser. C'est dans le fond, ben tu sais, les mimes, c'est une caricature, tu sais, puis de passer par des archétypes internet, tu sais, où est-ce que t'as, tu sais, là j'ai le terme anglais dans la tête, des templates là, des vraiment
des gabarits,
merci, des modèles, où est-ce que tu peux mettre ce que tu veux pour représenter quelque chose, mais avec un modèle que tout le monde peut reconnaître.
Mais, si je m'y connais en mime, pas forcément québécois, mais français. J'avais une amie qui, pendant la campagne présidentielle en France en 2017, tenait le blog le plus populaire de l'olytique français. Et du coup, qui faisait des mimes ou qui rebloguait ce qu'on lui avait transmis, qui faisait des gifs à partir des débats. Elle avait ressorti notamment Blingy. Je sais pas si vous connaissez Blingy, c'est mettre des petites paillettes et elle mettait les photos de ses, ses captures d'écran préférées. Elle mettait des petites paillettes ou elle faisait des montages avec les candidats, tout ça. Et ce que je trouvais quelquefois un petit peu gênant, c'est qu'elle avait par exemple un gros coup de cœur juste pour Copé, alors qu'elle est tout à fait c'est quelqu'un qui est plutôt conservateur, voilà, et elle est très très à gauche elle-même, c'est une lesbienne qui pense que le féminisme se pratique par le lesbianisme et ce genre de choses. Et en fait, elle en faisait une espèce d'icône très drôle. Ça pouvait... je pense que le fait de faire des mimes de absolument tout et n'importe quoi, quelquefois, peut avoir un impact un peu gênant. Je pense à l'image de Donald Trump qui devient finalement très drôle par les mimes, par les remontages, enfin les chansons qu'on fait à partir de ce qu'il dit. On avait aussi remonté des discours de Macron sur du heavy metal ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas si vous faites sûrement ça aussi, mais ça dépolitise quelque part, ça remet tout au même plan et ça peut être un peu gênant aussi. Quelquefois, enfin, c'est vidé de sa substance quelque part, tout en étant une transgression et une dédramatisation qui est, je trouve, tout à fait salutaire.
Ouais, c'est ça, mais il y a aussi, comme, j'essaie de faire des parallèles avec ce qu'on a vu la semaine dernière, mais c'est pendant le débat des chefs, il y avait François Legault qui arrêtait pas de répéter justement la maternelle 4 ans, la maternelle 4 ans. Mais ça, c'est devenu aussi un mime au sens où il insiste tellement sur cette idée-là qu'il y a pas vraiment de fondement, puis qu'il mène pas vraiment de nulle part. Quelque part.
Ben, en tout cas, je pourrais en parler très longtemps, mais c'est pas le sujet de l'émission.
On en fait une autre.
Ah, merci, invitez-moi à parler d'éducation, ça me faire plaisir.
T'en avais touché un mot justement à l'émission qu'on a fait sur les émissions jeunesse.
Absolument.
Rapidement à la fin, là. Donc, c'est sûr que François Legault et son idée de la maternelle 4 ans.
Ben, alors que c'est très contesté au sein même des facultés de sciences de l'éducation sur la pertinence de la scolarisation si jeune. Tu sais, il y a des nuances à faire qui ne sont pas nécessairement faites dans des clips, dans ce qu'on veut être des clips qui diffusent au téléjournal, mettons.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si ça a été récupéré et que c'est devenu des mèmes, que ce soit des mèmes pour s'en moquer ou pour en parler en bien, son truc a fonctionné. Ça a accroché. Ouais, on en parle.
Mais c'est
ça l'objectif, à mon avis, lorsqu'ils prennent la parole devant les médias ou dans les débats des chefs ou quoi que ce soit. Ils veulent que leur sujet soit celui sur la table parce que c'est celui qu'ils contrôlent, entre guillemets. Bon, on s'entendra peut-être que Legault, son sujet sur l'immigration, il y a un peu de difficulté à le contrôler ces temps-ci. Mais...
Le pire, c'est que j'ai été sans internet ni téléphone à la Baie James pendant au moins 10 jours. Puis quand je suis revenu, c'est juste immigration. Donc, effectivement, je pense qu'il a perdu un peu le contrôle de son message. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Les lignes de com' des partis, ils ont un message à passer par jour. Puis ils essayent de le marteler. Puis ils essayent de pas dévier de ça. Ça fait des années, ça doit faire au moins 15-20 ans. Ben, ça doit peut-être. Je me rappelle la campagne électorale avec George Bush aux États-Unis, où est-ce qu'il y avait vraiment ce. En 2001, où est-ce qu'il y a eu vraiment. J'oublie le nom de son conseiller qu'on citait beaucoup à l'époque, mais qui était vraiment aguerri avec marteler le discours, quelques propositions très simples, répéter ce que Stephen Harper a fait
en 2006.
Est-ce que, finalement, la plupart des politiciens québécois actuellement essayent de reprendre, garder un message simple, les politiciens posent une question sur une situation ou sur une autre question en conférence de presse, les chefs vont essayer de revenir tout le temps. Alors, vont prendre la moindre occasion pour revenir avec leur message. Puis, tantôt aussi, quand on parlait des archétypes dans lesquels on peut identifier les différents partis ou les différents chefs, je me demande aussi jusqu'à quel point les élections actuelles qui comprennent pas justement cette ligne de fracture-là, cette grande ligne de fracture indépendantiste, fédéraliste. Puis même, oui, l'axe gauche-droite revient, mais entre les libéraux, la CAQ, puis même le PQ, quand on suit beaucoup la campagne, la politique en général, on est quand même capable d'identifier les différences, mais entre ces trois parties-là, avec toutes les petites mesures qu'ils mettent en place, c'est pour le Québécois moyen, je pense que c'est quand même difficile de faire la différence. QS est clairement plus à gauche par l'environnement, mais dans la tête de beaucoup de gens, c'est quand même un joueur plus marginal. Donc, c'est je sais pas jusqu'à quel point le fait qu'il y a des qu'il y a beaucoup d'absurdes qui roulent est pas révélateur du fait qu'il y a pas tant de substance dans les élections, donc on se moque de la forme plus que d'aborder le fond. Puis je me rappelle pendant la campagne électorale fédérale aussi, parce que je m'étais mis comme défi de faire 2 caricatures par semaine sur mon blog pendant la campagne fédérale, qui avait été très longue. Et j'avais trouvé ça très long par moment. Je savais plus quoi faire, puis je pense que j'ai fait à un moment donné comme 5 caricatures de suite de burqa, parce que ça parlait juste de ça. Puis là, je savais plus comment rire, puis quoi faire, puis comment avoir quand même un propos dans la caricature aussi, puis pas juste être non plus. Des fois, ça peut être facile dans la caricature de tomber dans des genres de stéréotypes de tous les politiciens sont beige, corrompus. Puis je trouve ça un peu. En tout cas, moi, dans ma démarche, je trouve ça un peu plate de tomber là-dedans. J'essaie de garder quand même un certain propos, mais les politiciens nous aident pas tout le temps.
Ils donnent pas la substance.
Parlant justement de lignes de communication et tout ça, on en parlait tantôt avant l'émission. Un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur les 4 principaux partis, il y en a 3 que leur slogan est un mot-clic. Hein. C'est un terme seulement. Est-ce que c'est là une stratégie? Je pense que oui, de la part des partis.
Tu mentionnais aussi que c'était le seul, justement, qui écrivait son slogan sur les affiches. Oui. C'était le
Parti libéral, qui a un slogan qui, pourtant, est le plus long, qui est là pour faciliter la vie des Québécois. Puis et en bilingue dans des circonscriptions où est-ce qu'il y a des anglos, je crois, ces affiches-là tous les jours. Mais c'est ça. Mais pour tous les autres, ce sont toutes des affiches avec la face du candidat, le nom du parti, puis le nom de la circonscription. Des pancartes qui pourraient être recyclées pour n'importe quelle élection, parce qu'il y a pas, elles sont identifiables à un parti, mais elles sont pas identifiables à une époque.
Mais ouais, c'est ça. Ben justement par rapport au slogan, si jamais il y a des auditeurs qui les connaissent pas, je trouve ça drôle quand même, parce que moi je m'intéresse beaucoup au slogan des différents partis. Je trouve que c'est très parlant de qui veulent chercher ou qu'est-ce qu'ils veulent passer comme message.
Ou d'une époque aussi.
Ou d'une époque, effectivement. Et il y a certains slogans encore aujourd'hui que je suis sûr qu'ils peuvent venir en tête des gens qui nous écoutent. Il y a des slogans qui ont vraiment marqué. Puis
on n'arrivera jamais à la cheville de on se donne le goût.
Ouais.
ou dans le vrai. Vraiment, là, qui touchait à point le slogan du Bloc québécois au sortir du scandale des commandites, qui était pour un parti propre au Québec. Là.
Le double sens.
C'était excellent. Écœurant! C'est pour vrai, en tout cas, dans les slogans politiques que je connais depuis l'âge de 10 ans.
On dirait qu'ils ont mis tous les efforts dans celui-là, puis les élections suivantes, ça s'est un peu dégradé.
Tout à fait. Mais tu sais, comme depuis à peu près 1900, mettons, dans les slogans dont je me rappelle depuis à peu près 1994, là, parce que oui, je suis une freak de politique qui suivait ça quand elle avait 10 ans, parce que je suis une personne de même, c'est le meilleur slogan. Vraiment. Comme, wow. Mais effectivement, ils ont mis toute leur effort là-dessus, parce qu'après, ça faisait dur.
Il manquait de budget.
Claquer dans
genre.
Mais c'est vrai que c'est intéressant la question des slogans, puis
excuse-moi, t'as comme interrompu.
Il y en a été question beaucoup en début de campagne, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une question de stratégie de communication, parce qu'on a un mot-clic, on a des mots qui permettent, qui peuvent être déclinables de toutes sortes de manières. On peut y rajouter des thématiques. Ce que Québec solidaire fait pas mal depuis le début de son histoire, d'avoir des pancartes thématiques avec des enjeux, mais ce que les autres partis semblent commencer à faire, le Parti québécois le fait sur ses pancartes, même la CAQ avec son maintenant le fait un peu, mais c'est souvent publicité sur le web beaucoup. Je pense que on s'en va vers ça. Je pense que de moins en moins on va avoir des slogans très longs qui peuvent être plus ou moins libres de sens.
Le sérieusement. Là,
Mais c'est ça,
qui en soi veut rien dire, mais qui est déclinable.
Ouais, que t'allais résumer les différents slogans pour rappel. Et pour mémoire, parce que c'est enregistré dans les voûtes de choc, là. Sérieusement, c'est le Parti québécois. Maintenant, c'est la CAQ. Populaire, c'est Québec solidaire. Et là, pour faciliter la vie des Québécois, c'est le Parti libéral.
Parlant de déclinaison, justement, le Parti libéral le fait pour faciliter la vie d'eux. Puis on peut voir...
Oui, c'est vrai.
On peut voir des familles, des aînés, etc. Sur les pancartes, c'est des Québécois, mais lorsqu'ils font leur point de presse et tout ça, on voit sur le devant de leur petit podium qu'ils déclinent... Ouais, c'est ça, oui. Exactement. Mais je trouve ça quand même très intéressant de voir trois parties sur quatre qui utilisent un seul terme, donc un mot clic. Ça sonne vraiment une idée de faire une stratégie sur les réseaux sociaux et qui fait le pont un peu avec le fait qu'on disait justement que les pancartes étaient presque anonymes et inintéressantes. Elles sont là parce qu'on voit la face du candidat, mais il y a rien. Pour moi, j'ai pas vu de pancarte vraiment funky, hein, si ce n'est peut-être quelques pancartes de la part de QS. Et les autres parties, c'est très très classique, très ben il y a la phase du candidat, il y a la
suspension. À la limite, moi j'avoue que c'est peut-être un petit côté vintage, je sais pas, mais moi la partie du la pancarte du PQ avec simplement le logo blanc sur fond bleu écrit sérieusement ou Parti québécois, moi ça, je trouve ça fait très première élection du PQ, c'est super simple, elle s'en remarque de loin, il y a deux couleurs.
Ouais. Moi, j'aime le design. Ouais. Très simple, c'est le logo. Comme le retour du « on a besoin d'un bon gouvernement » qui était le slogan de 76, en fait. Oui, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire.
Très simple, pas trop surchargé, mais bon, je sais pas jusqu'à quel point ça marche. Là, mais moi,
c'est un peu un appel à la nostalgie, puis c'est dans l'air du temps. Ouais, peut-être, là, si on joue vraiment là-dessus. Puis je pense que le Parti québécois a essayé dans les derniers mois de jouer sur le parti de « ah oui, mais nous, on est le parti qui vous a amené ça, qui vous a amené... comme... »
Il y a son fameux autobus aussi.
Oui.
Le Magic Mysterio Tour.
Je dois avouer que ça, personnellement, ça m'a vraiment surpris, cet autobus, et à la fois, j'ai pas trouvé ça inintéressant. Je trouvais que c'était, regarde, de toute façon, j'ai vraiment l'impression, en fait, que Parti québécois était en début de la campagne, on n'a plus rien à perdre, de toute façon. Puis, non, mais on gagnera pas. Donc,
on va faire des blagues!
Ouais, non, c'est ça. Justement, cette idée de faire des blagues avant la campagne, de se moquer d'eux-mêmes, c'était quelque chose d'assez osé, en quelque sorte, et que, une fois la campagne lancée, que le slogan soit sérieusement, j'ai trouvé qu'il y a vraiment un bon travail de communication là, du on fait des blagues sur nous-mêmes, puis ensuite bon, la campagne commence, là on est sérieux, là on va prendre les choses par la racine, puis on va travailler. C'est du moins la ligne de communication du Parti québécois, j'ai trouvé qu'elle était bien cohérente jusqu'à présent. Après ça, à voir pour la suite.
Oui,
mais pour rappeler aussi l'idée des bons clics, là, l'élection a vraiment pris d'assaut les réseaux sociaux, justement, pour faire sa campagne. Puis on le voit que c'est moins dans les médias, c'est moins la télé câblée. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui l'ont.
Ça existe toujours.
Ça existe toujours. Parce qu'ici, on n'est pas des fans de la télé câblée.
Là, j'ai un câble dans mon appartement, là, mais je m'en suis jamais servi.
Il y a un film, je ne sais pas où il sera.
Ouais, il est comme un peu tannant, là. Je pense à l'enlever.
le couper. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on joue vraiment là-dessus. Puis il y avait des techniques. Je pense que Sylvain t'en parlait un peu avant d'entrer en onde, mais je serais intéressée à ce que tu répètes un peu ce que tu m'as dit, parce que en fait, j'en avais aucune idée. Puis je trouve ça très intéressant de voir comment c'est un peu un couteau à double tranchant, au sens où on a vu, surtout avec la campagne électorale des élections de Montréal, donc la campagne de Valérie Plante, puis les gens qui s'occupaient de sa campagne électorale ont vraiment pris d'assaut les réseaux sociaux pour séduire, si je veux, un certain groupe de la population qui est plus jeune, pardon. Et je pense qu'il y a ça qui veut être réitéré pendant les élections provinciales, mais ça peut être un couteau à double tranchant, au sens que les données qu'on offre en ligne... Ah, tu voulais dire quelque chose?
Non, mais c'était une mini-parenthèse. Ouais, d'ailleurs, la compagnie de com Uppercut qui s'occupait de la campagne de Valérie Plante et aussi celle qui s'occupe de la campagne du Parti québécois. Ah, donc, je voulais juste le mentionner parce qu'il y avait un lien.
C'est bon, hein.
Voilà, mais tu peux continuer.
C'est ça, parce que comme... on offre nos données et ça peut être utilisé contre nous.
Ça m'amène deux petites choses. La première, si la campagne se déplace sur les réseaux sociaux et qu'on essaie de parler à un électorat plus jeune aussi, ce qui est à noter, c'est que c'est la première élection au Québec depuis je sais pas combien de temps, que l'électorat est divisé vraiment un tiers, un tiers, un tiers entre les trois grands groupes d'âge, si on veut, milléniaux, X et boomers. On n'est plus dans la pyramide inversée où les boomers ont la majorité du vote, donc il faut aussi que les partis adaptent leur message pour pouvoir aller chercher cet électorat-là qui est rendu non négligeable. Donc, yay pour nous. Non. Mais sinon, par rapport aux données, là, on fait un gros détour. On quitte la campagne québécoise pour parler d'élections au sens large et d'utilisation de réseaux sociaux. Sûrement qu'il y en a qui se souviennent du fameux leak, si on veut, de Cambridge Analytica avec Facebook. Il s'avère que j'avais, je sais plus trop... par quel hasard je traînais dans quel coin d'Internet, j'avais lu un article très intéressant et très long qui parlait justement d'un programme qui a été développé en université qui s'est ensuite transporté en entreprise privée, qui est de faire un mélange entre l'utilisation des réseaux sociaux, les métadonnées et les types de personnalités. Si vous êtes un peu familier avec le Big Five, qui est un système de classement des personnalités et des gens développé en université. Donc, avec ce système-là, ils arrivent avec une trentaine de likes, donc sur ta page Facebook, tu as liké 30 trucs, ils arrivent à dresser ton portrait de personnalité parce que les gens qui aiment les mêmes choses que toi, qui aiment ces mêmes pages-là, ont ces types de personnalités-là. Et avec ça, ils sont capables d'estimer quelle chose tu vas aimer avant même de l'avoir découvert. Donc, par exemple, si on t'aime tel truc, tel truc, tel truc, on sait que telle autre chose, tu vas l'aimer d'office. Et donc, quand on croit ça avec les métadonnées, ils sont capables de circonscrire sur des territoires très précis quelle est la personnalité générale des gens qui habitent, par exemple, dans une rue ou un bloc. Par ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez voir presque... pas presque, rue par rue, ce qu'ont voté vos voisins.
Ah ouais, ouais,
ça c'est assez fou.
C'est fascinant.
Ça se trouve sur Internet super facilement. Tu peux voir les gens qui habitent à côté de chez toi.
Il y a eu un article du Devoir là, qui était vos voisins ont voté pour qui ou quelque chose du genre. Là, puis là, tu peux voir une carte là-dessus. C'est fascinant. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que mes voisins étaient vraiment libéraux, puis j'étais triste.
Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que chacun, la façon que le territoire est divisé, c'est par circonscription, et chaque circonscription est subdivisée ensuite en boîte électorale d'à peu près, je crois, 800 personnes, je ne veux pas dire de bêtises, et que ça représente environ un pâté de maison, si on veut. Ces boîtes-là sont décomptées individuellement et elles sont compilées individuellement, et elles sont ensuite regroupées pour savoir qui gagne l'élection. Mais chacune de ces données-là, elle est publique. Donc, tu peux tout à fait savoir ce qu'ont voté les gens sur ta rue. Tu ne peux pas savoir ce que ton voisin exactement a voté, mais tu peux savoir que sur ta rue, il y en a 30 qui ont voté pour telle partie, 20 pour un autre, etc., etc. Donc, c'est assez fou d'une certaine façon parce qu'on peut exactement cibler sur une rue en croisant ensuite avec les métadonnées. Donc, on peut savoir facilement où une personne habite. Sachant où elle habite, on sait quelle chance elle a de voter pour telle partie. Et ensuite, en utilisant les réseaux sociaux avec Facebook, il y a un truc qui s'appelle le Dark Post, qui est une façon de faire des publications qui ne sont ciblées qu'à des personnes précises. Donc, on peut cibler justement ces personnes de cette rue-là, par exemple, en leur montrant une publicité qui va les inciter à voter pour une chose ou les faire repousser par rapport à une option. Par exemple, lors de la campagne américaine, ils ont ciblé dans un quartier afro-américain pro-Hillary, si on veut, pro-démocrate, ils ont ciblé une publicité où ils montraient que Hillary avait dit une phrase qui était à tendance un peu intolérante, raciste, et ils l'ont envoyé aux gens de ce bloc-là. Donc, ce que ça fait, c'est que ces gens-là qui ne voteraient pas Trump ne sortiront pas voter Trump, mais ils sortiront pas plus pour aller voter pour Hillary. Et là, ce qui est assez fou, c'est que on ne peut pas voir ces publicités-là, on ne peut pas voir ces choses-là, parce que comme c'est hyper ciblé, le journaliste ou le média, la personne qui analyse la politique ne peut pas les voir. Donc, on peut pas faire ressortir ça. J'ai tendance à croire que dans la campagne électorale québécoise, on n'en est pas rendu là. À ma connaissance, l'outil qui a été utilisé et développé par Cambridge Analytica, on revient à notre point de départ, a été utilisé lors de deux campagnes principales, deux campagnes majeures. La première, c'est le Brexit, et c'était en faveur du camp pour le Brexit, donc en faveur de partir. Et la deuxième fois, c'est pour la campagne d'un certain Donald Trump. Donc, c'est très intéressant et très troublant, peut-être, à la fois. Si j'arrive à retrouver le lien, je me ferai un plaisir de t'envoyer, Megan, puis tu pourras...
Si tu peux le trouver, on va partager sa page de Pop en Stock. J'ai retrouvé la carte là, que tu peux voir tes voisins. Mes voisins ont voté qui est PLQ. J'aurais pas dû déménager parce que dans mon ancien quartier, c'est très Québec solidaire. Moi, je suis Québec solidaire. Fait que là, je vais peut-être perdre mes élections parce que j'ai déménagé.
Je pense que tu vas perdre tes élections, Mégane. Je vais pas te décevoir, là, mais il y a des chances.
La circonscription Maurice Richard, là, c'est...
Maurice Richard, je suis natif de Dantzig. Mais, jusqu'à maintenant, depuis environ 30 ans, c'est un comté pivot, donc c'est un comté qui a voté presque tout le temps du côté du pouvoir. Et c'était... Avant que QS s'installe sur l'île de Montréal, c'était un des très rares comtés sur l'île, surtout dans les quartiers centraux, qui changeait. qui pouvait changer alors que la majorité des comtés sont soit bloqués pour le PLQ ou étaient bloqués pour le PQ jadis, tandis que maintenant on est avec QS grosso modo le long de la ligne orange, il reste un petit peu
la
de,
ligne orange.
Il reste un petit peu de PQ dans l'extrême est de Montréal d'où Rachel est native, puis sinon ben, Maurice Richard reste un genre d'énigme cette élection aussi, parce qu'il semble avoir peut-être une course à 3 voire à 4, donc qui sait,
va voter Mégane dans ce cas-là, va voter.
Je pense que le message aux jeunes, c'est que votre vote compte. Mais c'est sûr que si vous habitez dans Robert Baldwin ou Darcy McGee et que vous ne voulez pas voter libéral, peut-être que votre vote compte pas beaucoup.
D'ailleurs, espérons, ben du moins, personnellement, j'espère fortement que ce ne sera pas les libéraux majoritaires, parce que théoriquement, tous les autres partis ont annoncé qu'ils feraient une réforme du scrutin. Et à ce moment-là,
l'adverbe, c'est très important.
Oui, tout à fait d'accord, mais c'est une question à laquelle je m'intéresse depuis mes études en Sciences Po. L'entente qui a été signée en mai dernier par les principaux partis, à l'exception du Parti libéral, et aussi avec la présence du Parti vert, c'est probablement le truc le plus proche qu'on a eu jusqu'à présent d'avoir une réforme du scrutin, parce qu'on a trois des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale qui se prononcent en faveur. Et c'est pas juste on se prononce en faveur d'une réforme, on se propose en faveur d'une réforme pour mettre tel type de scrutin. Et ça, c'est un gros pas. Je sais qu'on n'est pas encore rendu, je sais qu'on est loin, je sais que Trudeau nous a eu.
Oui. C'est pas le premier.
Non, c'est ça. C'est pas la première fois, mais j'ai bon espoir.
On croise les doigts.
Mais voilà.
C'était tellement une question que la réponse importait, mais en même temps, il fallait pas besoin de s'exprimer plus longuement là-dessus. C'était comme juste à la fin du débat. C'est pour ou contre une réforme du scrutin? On lance la question.
Oui, non.
Non. Voilà. Oui, bon, donc on a parlé beaucoup des réseaux sociaux. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'avec le Cambridge Analytica, c'est sûr que là, il y a comme une espèce de mélange de toutes les métadonnées et une espèce de campagne un peu agressive avec les publicités ciblées. Mais je pense que en tout cas, ça, c'est mon avis. Vous me direz si je me trompe. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec la publicité ciblée, on nous montre plus de qu'est-ce qu'on veut déjà. C'est pour ça que comme quand on achète un déshumidificateur sur Amazon, ils nous donnent des pubs de déshumidificateurs comme si on en avait besoin, comme d'une collection de 10. Fait que là, moi, j'ai l'impression que, par exemple, si je vote... Là, on revient aussi à la question des espèces de bulles... de société là, qu'on se forme autour de nous. Si je vote Québec solidaire, j'ai beaucoup de pubs de Québec solidaire. Les gens qui font des statuts Facebook sur Québec solidaire vont m'apparaître encore plus. Donc, j'ai l'impression, ça renforce aussi mon impression que, ils sont plus populaires. Ou, par exemple, je suis comme plus intéressée à savoir s'ils ont plus de popularité, ils ont peut-être une chance de gagner. Fait que, tu sais, il y a comme un petit côté un peu insidieux, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça.
Comme...
Mais en même temps, tu sais, c'est pas toujours égal, dans le sens où, ben, je ne suis pas je ne vote pas pour le Parti libéral dans la vie, mais ma première publicité ciblée de campagne, tu sais, commanditée, était une du Parti libéral que j'ai d'ailleurs partagée sur Facebook en faisant comme, mais pourquoi? Mais peut-être que, tu sais, on parlait du fameux ciblage de la rue, c'est peut-être lié au fait que...
Ta position géographique.
À l'ouest, ouais, c'est ça. À l'ouest du boulevard Saint-Michel, là où j'habite, ça va plus bien.
Je pense que ça dépend. Pour être en toute transparence, je ne suis plus membre ni militant d'aucun parti, mais j'ai quand même été longtemps dans l'organisation de QS jadis, jusqu'aux dernières élections. Puis les réseaux sociaux, c'est sûr que ça devient une avenue très intéressante, même pour des partis qui ont moins de budget, justement à cause de ces ciblages-là. Donc, puis le fait n'est pas toujours nécessairement d'aller convaincre des électeurs de voter pour ton parti, mais de convaincre les électeurs qui veulent voter pour toi d'aller voter. Mm-hmm. Ce qui est la fameuse sortie de vote, qui est un peu le classique au Québec. J'ai aucune idée comment ça se passe en France, là, mais quand ça va dans une campagne électorale sur le terrain, c'est identifier c'est qui tes électeurs, donc le fameux pointage téléphonique de jadis qui existe encore maintenant mais qui est plus compliqué, puis c'est de rappeler ces gens-là la journée du vote pour s'assurer qu'ils aillent voter. Puis s'ils sont fatigués ou tout, tu leur offres un véhicule, tu vas les reconduire, tu vas vraiment les
d'où
les
l'histoire faire voter. avec les personnes âgées, on va les chercher dans leur CHSLD.
Donc, c'est sûr que dans ton comté, c'est un budget limité possibilité de publicité, mais maintenant les réseaux sociaux c'est quand même une belle avenue plutôt que de mettre des publicités dans un journal qui vont relativement te coûter cher puis que de toute façon il y a plus grand monde qui lise les hebdos, ben tu vas cibler les sections de vote où est-ce que tu as déjà beaucoup de votes. Donc tu dis j'ai plus de probabilité à ce qu'il y ait des électeurs là. Donc en mettant plus de pubs mettons sur Facebook chez les gens de tel âge à tel âge qui sont proches de ton parti dans telle section de vote, ben peut-être que ça va augmenter le taux de participation dans ces sections là. Puis tu vas pas perdre ton temps par exemple à l'ouest de Saint-Michel si t'es pas libéral à mettre des pubs. Mais si le PLQ, parce que moi aussi j'ai eu des hier par exemple j'étais dans Sainte-Marie-Saint-Jacques donc dans le sud-est dans le centre-sud à Montréal, j'ai eu une pub super rapidement sur Instagram je pense du candidat du Parti libéral. Mais enfin, je ne crois pas par mes activités sur Internet. Quoi, quelqu'un, on est geek de politique, on aime beaucoup des pages de tous les partis, puis on suit quasiment tout le monde, puis on a des intéressants de tout le monde. Donc, des fois, ça les confond, je crois.
C'est très vrai, parce que j'ai ma page, je suis abonné au Parti libéral. Ben ouais,
mais probablement que le Parti libéral, de toute façon, a un budget tel de publicité qu'il peut se permettre dans Sainte-Marie-Saint-Jacques de y aller à fond et de mettre des pubs un peu partout. Mais ça permet de moduler l'action des partis. Mais un truc aussi qui est intéressant en ligne sur les réseaux sociaux ou en ligne point que les gens dont les gens n'ont pas nécessairement conscience, dont je parlais du fameux pointage téléphonique, les gens ont moins en moins de téléphones fixes. Donc avant c'était facile, on a les partis ont accès à la liste électorale, donc ça veut dire que le directeur des élections leur fournit la liste de tous les électeurs par section de vote avec leur adresse dans leur comté. Mais il n'y a pas les numéros de téléphone. Mais assez facilement, avant c'était fait à la mitaine, mais maintenant assez facilement avec des algorithmes, on peut aller chercher les numéros de téléphone puis associer les adresses pour les gens qui ont un numéro de téléphone sur Canada 411. Donc la plupart du temps, une ligne fixe. Mais les téléphones cellulaires, c'est beaucoup plus difficile d'y avoir accès, donc de pouvoir appeler les gens pour s'assurer qui est voté ou de leur envoyer même des textos. Donc les partis maintenant font des pétitions, font toutes sortes des événements. Venez manifester, Québec solidaire manifeste pour 15$ de l'heure, alors inscrivez-vous à l'événement et mettez donc votre téléphone en même temps et tout. Donc c'est chaque partie essaie de se bâtir aussi une base de données pour pouvoir s'en servir ensuite, surtout en élection, mais même entre les élections. Donc il y a tout un jeu aussi d'acquisition de données comme ça de toutes sortes de manières qui se jouent, dont on n'en a pas nécessairement conscience.
C'est la fameuse pétition pour mettre dehors Barrette qui avait été lancée par QS. Ben les données qui ont été là servent pour les
qui a été une des petites pétitions les plus populaires au Québec des dernières années. Donc, je me rappelle plus qu'il y avait eu combien de dizaines de milliers de personnes qui ont signé, mais c'était quand même assez considérable.
Voilà.
Juste pour faire un petit saut rapide, parlant du pointage, je travaille pour les élections comme toutes sortes de postes, mais pour Élections Québec, donc de façon tout à fait neutre, là, pas pour un parti. Et notamment, quand on est secrétaire à une table de vote, un de nos travails, et c'est ça que j'ai toujours trouvé un peu drôle, on a une liste avec des numéros, et chaque numéro est associé à un électeur dans ma liste. Donc toutes les personnes qui viennent me voir lorsqu'elles vont voter, on les identifie, puis après on règle le nom de la liste. Et après, le numéro, ce qu'on fait, c'est on encercle sur la feuille le numéro.
Les feuilles de bingo.
Exactement, les feuilles de bingo, les feuilles de pointage. Et en fait, cette feuille-là, à quoi elle sert? Elle sert pas au directeur des élections, elle sert pas à savoir si les gens sont venus voter pour le bien de l'élection en soi. Ça sert au parti. Les partis, en fait, à toutes les demi-heures, heures, passent et ramassent les feuilles de chacune des tables et les ramènent, dans le fond, à leur QG. Et là, ils regardent qui est venu voter et qui n'est pas venu voter parce qu'ils ont, eux autres, les références entre les numéros et les électeurs. Et donc, ensuite, comme tu disais, ben ils appellent les gens qui savent qu'ils sont favorables à leur parti, mais qui n'ont pas encore été encerclés, pour essayer de les inciter à venir voter.
On est du Parti libéral du Québec, on a appelé Rachel, on sait qu'elle va voter pour nous parce qu'elle habite dans un coin favorable à nous. Elle dit ouais, je m'en vais voter, mais en allant chercher ces fameuses feuilles de bingo là, on se rend compte que Rachel elle y va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben on rappelle Rachel. Ah, Madame Hippolyte, oubliez pas, il faut aller voter aujourd'hui. Ouais, je t'avais dit d'y aller. Donc, les partis peuvent rappeler 3, 4, 5, 6 fois les mêmes électeurs. Ben, ça peut être un jeu dangereux, les électeurs peuvent se tanner.
Ouais, c'est ça.
Juste pas aller voter. Mais c'est ça le principe.
Pour faire sortir ben, le là, vote, surtout dans mon cas, là, je vais certainement pas voter pour le Parti libéral.
Mais pour faire un pont avec la France, je me souviens, je pense que c'est à l'élection à Paris. Je veux pas dire de bêtises, peut-être que tu vas pouvoir me corriger. Où c'est Anne Hidalgo, qui est allée chercher des personnes âgées en minivan pour les faire voter. Et ça avait fait paniquer en France parce que c'est pas du tout quelque chose qui se fait habituellement.
Ah, mais je suis choquée par tout ce que j'entends. C'est du harcèlement. On a un très, très gros taux d'abstention ces dernières années. Et enfin, c'est très important pour... des gens d'extrême gauche qui vont considérer que la plupart des partis se revendiquant de gauche sont de droite et de s'abstenir comme geste politique très pensé parce que on va cette idée que les gens qui s'abstiennent sont absolument pas au courant de ce qui se passe et tout ça, mais au contraire généralement, enfin en tout cas dans le cas de beaucoup d'étudiants et de gens de ma tranche d'âge, c'est un choix qui est très réfléchi. Et donc l'idée qu'on puisse continuer à nous appeler en boucle pour vérifier qu'on aille voter, c'est un film d'horreur. Mais sinon, j'avais deux autres remarques. Tant que je suis là, j'ai le micro. Oh, j'ose pas trop intervenir parce que je ne suis pas québécoise. Par rapport aux publicités ciblées sur Internet, je tiens à dire quand même que ça reste très grossier parce que à partir du moment où Google t'identifie comme une femme, et donc ça inclut des femmes trans, tu reçois des publicités pour des tests de grossesse tout le temps. Non, mais enfin, d'accord. Et sinon, pour ce qui est d'être englobé en fait sur les réseaux sociaux, enfin disons submergé par des affiches, des notifications concernant le parti supposé être celui pour lequel on va voter. Mm-hmm. Ce serait pas un peu l'extension en fait de l'espace physique, parce que j'ai l'impression quand même que les affiches, il y a un ciblage, et en tout cas en France il y a une vraie guerre de l'affichage lors d'élections. La fac de Nanterre doit représenter le 1% qui a voté Poutou à elle seule, j'ai l'impression. et évidemment la fac était complètement recouverte d'affiches de Philippe Poutou pendant les dernières élections présidentielles. Donc, est-ce que du coup à Montréal c'est autant ciblé, j'avais l'impression.
Par rapport aux affiches,
mais ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de comtés dans lesquels je me promène, par exemple. Il y a des comtés où tu vois que les partis ils s'en foutent, là, et c'est tout petites affiches 8,5 par 11, puis mettons le PLQ, il y a juste des petites affiches 8,5 par 11, ils savent qu'ils vont pas gagner. Fait que je pense qu'il y a vraiment...
Dépendant où...
c'est raisonnable.
Dans Saint-Henri-Saint-Anne, la face de Dominique Anglade est très grande. Crois-moi, je passe devant tous les matins. Mais dans Rosemont, où j'habite, moins.
mais je pense que c'est différent, là. Ma copine est française, donc on a beaucoup de discussions là-dessus, mais les systèmes sont assez différents. Ici, on est dans un mode de scrutin uninominal à un tour. Ça veut dire que la carte du Québec est divisée en 125 comtés. Donc, c'est pas. Je pense que la meilleure explication, vulgarisation que j'ai entendue, c'est pas. Puis on dit souvent les élections. Donc, c'est pas une élection, c'est 125 mini-élections.
Absolument.
Donc ça vaut. Ben, effectivement, à certains endroits, ça vaut plus ou moins la peine d'afficher. Mais s'il y a une association locale d'un parti X avec un ou une candidate, que même s'ils savent qu'ils n'ont pas concrètement de chance de remporter localement là, mais qui sont prêts, qui ont de l'argent puis qui sont prêts à dépenser, ben ils vont le faire. Puis il y a plusieurs petits partis. Je participe pendant ces élections-ci avec une collègue, on a formé un blog qui s'appelle la Prime à l'urne, qui est plus un blog d'analyse de sondages statistiques et compagnie. Puis on a un petit podcast aussi. Puis on parlait des autres partis, donc les mini-partis, là, on a un record de, je crois, 21, 22 ou 23 partis inscrits actuellement. Puis Marie, ma collègue, a fait un peu une analyse de côté dons recueillis, nombre de candidatures et tout de ces parties-là. Vous pouvez aller lire ça sur la Prime à l'urne, enfin primealurne.info. Puis il y a des parties dont je ne connaissais pas du tout l'existence, comme Citoyens au pouvoir.
Ouais.
Et j'ai vu donc j'ai fait la route de la Baie James à Montréal les deux derniers jours, puis j'ai croisé de ces pancartes-là dans les Laurentides. J'ai croisé des pancartes de toutes sortes de petits partis qui affichent quasiment toutes leurs propositions sur l'affiche, parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens de communication, ils font ça. Donc il suffit qu'il y ait un candidat local là qui lui soit capable de ramasser quelques centaines de dollars et s'imprimer quelques affiches, puis ça va être mis. Donc je pense pas qu'il y a un ciblage en termes de je pense pas qu'il y a vraiment un profilage pour le ce que j'appelle le pancartage au Québec. Je pense que autant faire se peut, les partis essaient de couvrir l'ensemble du territoire, même s'il y a des initiatives, on en a pas parlé, mais intéressantes, comme celle de Québec solidaire qui a fait appel à des illustrateurs pour faire des affiches, donc des affiches un peu différentes, c'est plus des affiches à mettre en affichage sauvage sur des chantiers de construction ou ailleurs, mais ça a
été
quelque chose...
Ouais, mais c'est un concept intéressant, ouais, au sens où ils ont demandé à les illustrateurs et les illustratrices de juste choisir une province électorale dans leur...
Exact.
Sur leur site internet et de faire une illustration et eux s'engageaient à afficher. Puis ouais. aussi, je pense qu'ils vont tous être recueillis dans une galerie.
C'est déjà fait. C'est déjà il y a cas, déjà une expo. Ouais. En fait, ils ont fait appel, je me rappelle plus à combien d'illustrateurs et illustratrices.
Il semble qu'ils ont fait appel à 7-8 faciles.
Mais avec une, semble-t-il, liberté de création quasi totale à partir des promesses. Donc ça, c'est quand même un beau risque aussi pour les parties qui sont assez frileux puis qui veulent vraiment contrôler le message. Là, malheureusement, ces affiches-là, on les peut-être à Montréal, on les a vues un peu à l'extérieur. J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup débordé des locaux électoraux des campagnes locales. Là. J'aurais aimé ça que ça sorte un peu plus pour justement sortir un peu des affiches avec la photo des candidats. Je comprends tout à fait pourquoi ces pancartes-là existent, mais je pense qu'un petit peu de plus de créativité, ça les rendrait un peu moins laides et peut-être que ça traumatiserait un peu moins les Français ou les Françaises qui débarquent à Montréal pendant une élection.
Tu as dit que les affiches étaient pas très funky, mais pour le coup aussi, je les ai trouvées très funky comparé à ce qu'on a en France. Pour le coup, même si c'est très classique sur la forme, c'était pas vraiment la même atmosphère, mais c'est sans doute à cause aussi du fait que c'est plein de mini-élections, comme tu as dit, le changement de contexte, mais si, c'est funky pour moi. Mais effectivement, l'affiche du... c'est Québec solidaire, c'est ça. Je l'avais vue juste au-dessus, du coup, d'une affiche de Manon Massé classique. Elle était exactement au même format. Et c'était pour la couverture dentaire et je l'ai vue. Je me demandais... ça a tilté. J'étais, est-ce que c'est pour la même chose? Mais en même temps, la couverture dentaire, est-ce que c'est quelque chose d'un peu pharmaceutique ou quoi, vu que c'était une illustration, ce qui est plutôt du code de la publicité pharmaceutique, donc j'étais un peu perplexe, mais voilà, j'ai eu mes explications et c'est vrai que c'est très intéressant.
On parlait rapidement du budget. On sait que tous les partis politiques ont un budget limité qu'ils peuvent utiliser, qu'ils n'ont pas le droit de dépasser. Et moi, ça m'a suscité un petit questionnement. Je suis allé faire mes recherches. Qu'est-ce qu'il y en est des publicités qui sont laissées sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut les payer? Comment ça fonctionne exactement? Donc, je me suis permis un petit coup de téléphone au directeur des élections pour en avoir le cœur net. Et c'est vraiment intéressant parce que des candidats peuvent faire des publications et ils n'ont pas besoin de payer pour une publication. C'est une publication comme si j'étais sur la place publique, que je disais quelque chose. Mais dès le moment où il y a de l'argent qui est mis en jeu, donc si par exemple ma publication, je décide que je veux la sponsoriser pour qu'elle soit plus visible, là, à ce moment-là, c'est une dépense électorale. Et à ce moment-là, il faut que ce soit approuvé par l'agent officiel. Je ne sais pas si vous avez souvent remarqué, mais sur toutes les pancartes et sur toutes les publicités, il y a approuvé par l'agent officiel. Donc dès le moment où de l'argent est mis en jeu dans ma publicité, il faut à ce moment-là que je la déclare. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si, par exemple, je fais une vidéo, mais que ma vidéo, je la fais avec mon téléphone, je le fais avec un ami, puis que personne ne me charge dans l'histoire, c'est pas une dépense électorale, donc je peux le faire sans limitation quelconque. Si par contre, il s'avère que mon ami me charge un montant parce qu'il est dans le monde de la vidéo, puis c'est son métier, et bien là, à ce moment-là, je suis limité. Donc, je sais pas si ça ouvre à une porte à un certain abus potentiel de on peut faire ce qu'on veut comme publicité sur les réseaux tant que on ne charge pas. Donc on pourrait noyer en quelque sorte de publicité sans tant qu'on fait pas de dépenses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et donc avoir beaucoup plus de publicité qu'un autre parti qui lui fait des dépenses pour chacune de ces publicités là. Je sais pas si vous voyez où je veux m'en aller avec ça m'a amené ces questionnements là et j'ai pas vraiment eu de réponse très claire, si ce n'est que si c'est payé, c'est dans la limitation. Si c'est pas payé d'aucune façon, ce n'est pas dans la limitation.
Puis que ce soit récupéré, est-ce que dans le fond, ces publicités-là qui sont faites, mais qui sont pas payées, mais qui sont faites par des militants, peuvent être aussi récupérées par des partis politiques, dans le fond?
Ouais, c'est ça. Mais si c'est pas payé, c'est correct. C'est vraiment, tu sais, c'était ça le. Ouais.
C'est pas toujours bon quand c'est bénévole.
Ouais. Je me rappelle d'une vidéo. qui avait été paru en 2012. Puis ça avait été fait par un militant du Parti québécois et qui voulait inciter, en 2014, puis qui voulait inciter le Parti québécois majoritaire, pas le temps de niaiser. Fait que là, on entendait le pas le temps de niaiser qui vient du fameux tequila Heineken. Et, puis tu sais, mais ça avait été fait par, puis c'est précisé, là, mais ça a été relayé par le Parti québécois, par la chaîne YouTube du PQ, mais dans la vidéo, c'est précisé, cette vidéo a été tournée par un militant du Parti québécois, fait que dans le fond, même si c'est récupéré par le parti, même si ça a été récupéré par le parti, ben, il reste, ouais, dans cette ligne-là, elle est mince, parce que ça a été récupéré par la page YouTube officielle du parti, mais ça a été fait par un militant du Parti québécois. Ouais,
tant que c'est pas,
non, qui n'est pas nommé.
Tant qu'effectivement, le parti paye pas pour booster la publication, comme dit Facebook, ça reste
de l'ordre de la. Et la publicité était très mauvaise.
Ouais. Tu parlais de c'est ça. Ensuite, il y a la qualité, mais.
C'était vraiment pas bon.
Ouais. Ben, c'est ça. Il y a comme pas encore de réglementation ou de.
Ouais. Mais en même temps, c'est dur de réglementer, je pense.
Ben, en fait, c'est que c'est un peu... le bénévole est quand même accepté pour les élections. Il y a des bénévoles qui font du porte-à-porte, il y a des bénévoles qui distribuent. Donc, à partir de quel moment ça devient... à partir de quel moment est-ce que cette personne-là devrait être payée? Ou il y a certains trucs qui sont régulés. Par exemple, un local électoral, quelqu'un pourrait prêter un local, un bureau, quelque chose. Ça, normalement, le directeur général des élections demande à ce que même si c'est prêté, il y ait une partie, il y a comme un loyer qui soit considéré à hauteur du marché, comme ça fonctionne pas, parce qu'à un moment donné, des trop gros prêts, par exemple, une compagnie déciderait de prêter un autobus pour la caravane de campagne d'un parti, ça marche pas, c'est comme un don déguisé ou détourné. Mais la ligne est floue, une très bonne équipe de com pourrait faire d'excellentes publicités bénévolement, mais...
Ouais, mais il y a aussi toute une stratégie sur les réseaux sociaux, au sens où, sur Facebook, maintenant, si tu veux faire des publications avec une page, donc c'est régulé automatiquement, au sens où tes publications vont rejoindre de moins en moins de monde si tu ne payes pas de publicité.
Absolument.
Mais si tu fais des maudits bons mimes puis que tout le monde a envie de les partager, ça, rendu là, t'as pas besoin de booster ta publication parce que tout le monde va les partager, tout le monde va en parler. Donc, il y a un jeu maintenant qui est ouvert sur la limite entre devenir viral ou devenir un mime et versus ça. Comme ils peuvent jouer ça aussi à leur avantage au final. Donc,
puis de récupérer eux-mêmes ce langage politique-là pour se faire connaître. Tu sais. Je pense à la candidate de QS dans Rimouski qui s'appelle Caroline Cac et qui a beaucoup joué là-dessus. Tu sais, ma Cac est meilleure que la tienne, c'est un de ses slogans de campagne qui est uniquement pour QS Rimouski, tu sais. Mais ouais, c'est quand même drôle. Mais qu'elle-même a utilisé le fait qu'on se, tu sais, elle l'a récupéré elle-même en disant voter pour la CAQ, mais pour moi.
Comme les enfants de François Legault.
Exact. Ouais. Oui.
Il y a deux enfants de François Legault qui se présentent aux élections pour Québec solidaire.
Pour Québec solidaire, les autres.
Mais leur père s'appelle François Legault, mais c'est pas le même François.
C'est
Legault.
Pas le François.
Mais c'est qu'ils disent quand même qu'ils sont les enfants de François Legault parce que tu sais.
C'est surtout sur le détournement, puis sur l'humour, là.
Mais oui.
Bon, mais je vois que le temps file. Oui. Je sais pas si vous aviez un mot de la fin, quelque chose que vous aimeriez ajouter avant que...
Est-ce que je peux me permettre une petite publicité? Un petit plug. Pour ceux que ça intéresse, jeudi de la semaine prochaine au Café culturel La Récréation, de 19h à 21h, je fais un petit compte-rendu des élections, en fait, pour les nuls. Donc, les gens qui aimeraient en savoir un peu plus, comprendre un peu plus comment ça fonctionne, c'est entrée libre, contribution volontaire. Puis, en gros, je vais parler de trois grands volets, le fonctionnement du système électoral, les principaux partis et candidats, et ensuite quelques enjeux qu'on va regarder ensemble. Je fais ça à chaque élection et c'est bien sympa comme moment. Ça permet en fait, à la base, ça a été lancé parce que j'ai plein d'amis français qui me demandaient « C'est vrai, comment ça fonctionne? » Je vais pas vous expliquer un à un, j'en finirai plus. Venez tous là, puis ça va être plus simple. Puis aussi, ben, étonnamment, il y a des électeurs des Québécois qui viennent et qui aiment bien juste se faire rafraîchir le truc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à venir faire un petit tour.
à la récréation.
Exactement.
Aussi, c'est dans le quartier latin.
Ouais, c'est à deux pas, deux pas de l'UQAM.
À deux pas de l'UQAM.
Exactement.
Si vous voulez, je sais pas si...
Ben, moi, j'ai déjà fait un peu ma plug tantôt avec primalurne.info. J'ai un peu de caricatures en ligne, mais j'ai aussi une BD qui est déjà en ligne sur l'enjeu des finances publiques. J'en ai une autre à venir sur le privé en éducation. Donc, voilà.
Et ensemble, on peut se procurer ça.
En ligne sur primalurne.info. Ouais.
Est-ce que tu vas être à l'Exposine?
Je vais être Exposine. Je suis dans la plupart des festivals de BD et compagnie. On n'a pas eu le temps de parler de Joshi des feuilles d'érable, mais on en reparlera.
Désolé!
On prendra une émission sur les unes, par contre, parce que ça vend.
Oui, tellement! Oui. Invitez-moi!
Moi, j'ai entendu dire que tu connaissais tout le monde à l'Exposine.
Oh, non! C'est compliqué. Je le connais, lui, en tout cas.
Et Rachel, on va suivre tes chroniques de l'absurde encore jusqu'à la fin des élections.
Ouais, oui, effectivement. Ben, ouais. Puis de me suivre ici, là, je viens des fois, là, à Pop en Stock. Des fois.
C'est toujours le fun quand tu viens. Ben, je vous remercie, donc, Lorraine, Sylvain, Rachel et Martin, d'avoir fait cette belle émission-là avec moi. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock.